Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur CFM Rodez. On a eu le plaisir de retrouver dans nos studios Carole Irigoyen, qui est accompagnatrice transmission à l'ADR de l'Aveyron. L'ADR, c'est l'association départementale pour le développement de l'emploi agricole et rural sur le département. T'as vu Carole, j'arrive à le dire.
C'est parfait.
Merci beaucoup. Réussir sa transmission agricole en 10 leçons, c'est le nom de cette série avec la DR12 sur CFM. Et avec Carole, une nouvelle fois dans les studios, on va s'intéresser aujourd'hui, Carole, avec toi, à un point particulier. Comme à chaque fois, d'ailleurs, quand tu es de rentrer dans les détails des questions qui se posent autour de la transmission. Mais avant d'attaquer cette nouvelle étape, un petit rappel des épisodes précédents, comme on dit à la télé.
C'est ça. Pour ne pas perdre le fil.
Ne perdons pas le fil.
Alors, l'étape 1, on avait vu que l'agriculteur ou l'agricultrice a rencontré son conseiller MSA pour faire le point sur quand est-ce que je peux partir à la retraite et combien je vais avoir à la retraite.
Important.
Voilà.
Indispensable, étape 1.
L'étape 1. L'étape 2, l'agriculteur ou l'agricultrice a fait le point sur ses futurs projets de vie quand il sera à la retraite.
Ah oui,
qu'est-ce que j'ai envie de faire? Où est-ce que j'ai envie de vivre? Est-ce que j'ai envie de m'impliquer sur ma ferme ou pas? Et surtout aussi, est-ce que je veux transmettre ma ferme?
Oui, des sujets très importants aussi.
Et surtout, il a partagé ces idées-là avec son entourage.
Voilà, on ne fait pas ça tout seul dans son coin, parce que des fois, ça peut avoir un intérêt d'écouter les autres.
Parce qu'on n'est pas tout seul.
Ben non. Malheureusement ou heureusement?
Oh, heureusement.
Heureusement. Ah bah c'est bon, tu m'as fait peur.
J'ai réfléchi quand même.
Oui, t'as réfléchi quand même. Fais gaffe. Hein. Bon, dans cette étape 3 aujourd'hui, le sujet particulier, ça va être de faire un état des lieux de l'outil à transmettre et les modalités.
Là, on rentre un peu dans le dur.
Dans la technique.
Dans la technique.
Mais ça va être cool, on va faire ça c'est la glisse.
On va essayer.
Alors, allons-y.
Alors, les modalités pour transmettre vont être différentes si c'est une entreprise individuelle ou une société.
Pour l'instant, je te suis.
Quand on transmet une entreprise individuelle, on transmet des moyens de production, foncier, matériel, bâtiment, vaches, chevaux, cochons. Et quand on transmet une société, on va transmettre des parts sociales, parts de la société. Des parts de société qui comprennent déjà tous les moyens de production qu'on retrouve dans une entreprise individuelle.
Voilà, il n'y a pas de veaux, vaches, cochons, mais c'est l'équivalent.
Ils sont compris dans
théorique.
Les parts. C'est ça.
Très bien. Pour l'entreprise individuelle en particulier, comment on fait ensuite?
Alors d'abord, il faut faire la liste des biens matériels et immatériels à transmettre et savoir qui en est le propriétaire. Donc la question, c'est quoi? Qu'est-ce que je transmets? Quoi? Alors bon, les biens matériels, on pense de suite matériel, cheptel, foncier, stock.
Bah ouais.
Parce que quand on part à la retraite, on a quand même encore du stock de fourrage, par exemple, dans sa grange. Les biens immatériels, on y pense moins.
Ouais, c'est quoi ça?
Mais par exemple, quelqu'un peut avoir créé une marque. Il peut avoir un fichier client, il peut avoir développé des contrats. Et ça peut se monnayer aussi.
Ça a une valeur, tu m'étonnes, un fichier client, il y en a qui se barrent avec.
C'est ça.
D'accord, voilà. Oui, c'est une valeur, en effet, t'as raison. Bien immatériel, d'accord. Qui est propriétaire? Ça paraît bizarre comme question, mais il faut se la poser.
Oui, parce que, par exemple, du matériel, souvent les agriculteurs, ils ont du matériel en copropriété. C'est-à-dire c'est du matériel qu'ils ont acheté avec des voisins.
D'accord.
Voilà. Ben, il faut penser aussi à dire à son voisin, je vais vendre la moitié de ma charrue. Et puis surtout, au futur repreneur, il faut qu'il sache à qui appartient l'autre moitié du matériel.
Tu m'étonnes. Voilà. En même temps, des charrues, il ne doit plus y en avoir des masses. Hein. Je veux bien qu'on soit en Aveyron, Carole, mais il ne faut pas pousser. Hein. Des charrues, il y en a encore beaucoup dans les fermes?
Je pense, oui.
Tu penses comme tu veux, moi je pense autrement, tu vois. Mais bon, bref. C'était un exemple. Mais c'est important qui est propriétaire de quoi, t'as raison, parce que c'est pas si évident que ça, on peut pas vendre un truc qui est pas à soi. Ou alors on est un escroc.
C'est ça. Et puis, le foncier, on n'est pas forcément propriétaire du foncier. On peut être fermier. Le propriétaire, c'est quelqu'un d'autre.
Eh oui.
Donc quand on fait la liste de tout ce qu'on a, il faut qu'on pense à dire, ça, je l'ai en moitié avec mon voisin. Ça, je l'ai acheté avec mon épouse.
Eh oui.
Donc ce n'est pas que à moi.
Eh oui.
Et puis ça, c'est pas moi le propriétaire. C'est Monsieur Tartampion.
Que l'on salue. Donc oui, il faut tout mettre à plat et tout bien distinguer. Oui.
Et puis il peut y avoir aussi des biens en indivision, des biens qui venaient des parents. Et puis on est encore en indivision avec ses frères et sœurs
le
foncier.
T'as raison. C'est ça mérite une belle attention et de faire bien attention justement. Ensuite, on poursuit dans cet état des lieux de l'outil à transmettre et des modalités, Carole.
Donc la deuxième question, c'est comment? Comment je transmets? Donc il y a plusieurs façons. La donation, par exemple.
Ah bon? Genre on donne?
Dans le cadre familial, ça se fait.
Ah ouais, d'accord, ok. Bah, alors, il faut avoir des papiers à régler quand même. Hein.
Alors, quand c'est pas dans le cadre familial, ça peut être possible. Je pense que l'État doit en prendre
une partie. Bah ouais. Bah ouais, parce que...
Il doit prendre 70%.
Je sais pas, mais il laisse pas faire. Il dit pas, oh, je m'en fous, hein. Vous faites comme vous voulez, vous êtes copains. Hein. Non. Ok.
Alors attention, donation dans le cadre familial, il y a quand même des règles à respecter. On ne peut pas tout donner
et puis,
à un seul si on a plusieurs enfants.
Eh bah ouais, en France, en tout cas, ça marche comme ça. Tu ne peux pas privilégier l'aîné ou la fille ou celle que tu prêtes, ton petit chouchou.
On peut privilégier, mais dans une certaine mesure.
Voilà, surtout voilà. Mesure, parce que... Ok.
Donc la donation, la location, qui se fait souvent pour du foncier et des bâtiments.
Ouais.
Et pour la vente, il y a la vente classique, la vente en viager. Bon, moi, je ne l'ai pas encore vu beaucoup pour les cas que je suis.
D'accord.
La vente avec paiement échelonné, appelé crédit vendeur. Ça ne se fait pas beaucoup, mais c'est possible aussi.
D'accord.
Si on est devant des jeunes repreneurs qui n'ont pas les capacités pour acheter tout de suite.
Et pas la banque qui avance.
Voilà.
Tu peux
faire une vente échelonnée.
Ça paraît, ça ne doit pas être très courant, surtout quand tu as quelqu'un en face qui part à la retraite, qui dit, moi, j'ai peut-être pas 25 ans pour récupérer mes billes.
La vente échelonnée, tu as raison de le préciser, il ne faut pas que ça se fasse sur 25 ans.
Eh ben non.
Ça se fait sur une durée beaucoup plus courte.
Bah, tu m'étonnes. Mais c'est important de noter que ça existe.
Voilà. Et souvent, en fait, c'est un mix de tout ça. On trouve souvent du matériel et du cheptel qui est vendu, parce que bien sûr, on ne va louer du matériel, ça peut être compliqué. Louer du cheptel, ça se...
Je l'ai pas vu. Pourquoi pas, mais oui.
Et donc, il y a souvent une vente de matériel de cheptel et souvent de la location du foncier, puisque c'est un peu...
Le plus courant.
...dur de tout acheter.
Et oui, surtout voilà. Quand on se lance, évidemment.
Donc, le maître mot, encore une fois, c'est définir... Ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut vendre? Est-ce qu'on veut louer?
Se mettre au clair.
Tout poser
sur papier.
Ça.
Et notamment avec toi à l'ADR. Je rappelle, Carole, tu es accompagnatrice transmission. Donc, tu es là aussi pour ça.
Moi, je les aide à y voir clair.
Ah ouais. N'oubliez pas ceci, n'oubliez pas cela. On s'en ressort la petite feuille blanche comme la dernière fois.
C'est ça.
Et on met tout sur papier
pour
tout avoir en face des yeux, être bien au clair de tous les éléments.
Oui.
Hein. Bon, on va parler un peu de sous, là, peut-être.
Oui, parce qu'après, la grande question, c'est combien?
Et bah oui. On est au point 3, mais elle est centrale, cette question, hein, j'imagine.
Donc, on a vu qu'on pouvait louer. Alors, pour la location, c'est le plus simple, parce que ce soit pour du foncier ou pour du bâtiment, il y a un barème préfectoral.
Ah, comme pour un peu les... Je ne sais pas si ça marche comme ça pour les appartements. Enfin, bon, c'est réglementé.
Oui, c'est réglementé.
Ah, dans une certaine mesure, il y a un peu de marge des deux côtés, mais c'est réglementé. On ne peut pas vendre un truc trop cher, ni le donner.
Alors là, je suis sur la location.
Ah, la location. Oui, on ne peut pas louer trop cher. Oui, donc il y a des loyers encadrés dans certaines villes de France. Ok.
C'est assez précis. Hein. Il y a une grille assez précise. Par exemple, pour du foncier, il y a plusieurs catégories de terres. Si ce sont des landes et des terres labourables.
C'est comme un appart. C'est de l'ancien, c'est du nouveau.
C'est
troisième étage, c'est rez-de-chaussée.
Il y a aussi, en fonction de la qualité agronomique du sol.
Oh là là.
Si ce sont des... Pour les pâturages, on regarde s'il y a des points d'eau, l'état des clôtures. Et en fait, tout ça nous donne un certain nombre de points.
Ouais.
Et c'est ce nombre de points multiplié par un coefficient qui donne le prix,
Le
loyer.
Je suis pas trop maths, mais ça me plairait ça comme boulot, moi.
Ben, si eux, ils trouvent que c'est fastidieux, ils peuvent peut-être te demander de le faire.
Alors, je promets pas la règle, je serai très précis dans mes chiffres, mais je tente très bien d'aller mesurer les pentes et dire « Ah ouais, non, mais là, il y a trop de pentes, c'est moins cher. »
Oui, et tu as raison, parce qu'en plus, ça fait partie des critères.
Et ça fait partie de l'Aveyron.
Tu es très, très fort, en fait.
Non, mais ça veut dire que
je
connais l'Aveyron, si je peux te dire. Moi, en plus, j'habite Rue Bétail, donc il y a de la pente. Hein. Ok.
Alors, les terres labourables, par exemple, ça va de 92 euros à 260 euros de l'hectare, en fonction de tous ces critères.
De tous ces critères.
Pour les terres labourables. Pour les pâturages, ce sera encore autre chose.
C'est plus cher ou c'est moins cher?
C'est moins cher.
Ok.
Et pour les bâtiments d'élevage, c'est pareil. Pour les bâtiments d'élevage ou les bâtiments de stockage, il y a aussi des barèmes et ça va de 10 à 50 centimes le mètre carré en fonction
de l'état,
de la situation, des équipements qu'il y a.
C'est bien ça, savoir que c'est... Parce que du coup, il y a quand même du boulot à faire, mais c'est encadré. Quoi. On ne peut pas sortir des chiffres pas possibles ou au contraire, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs.
Ouais. Alors, on peut faire soi-même tout ça.
Ouais, ça me paraît un peu complexe.
Et si vous trouvez que c'est trop fastidieux, donc, on peut te demander à toi.
Éventuellement, mais c'est risqué. Hein. Mais vous faites... Moi, je veux bien venir voir un coup, la pente. Combien il y a de pentes ?
Et sinon, il y a aussi des experts dans le métier.
Ah, il y a des experts.
L'ADASEA fait ça pour les locations. Mmh. Et il y a aussi des experts fonciers. Il y en a plusieurs dans l'Aveyron. Mmh. Et on trouve leur nom sur expertfoncier.com.
Ouais, c'est l'équivalent de l'immobilier, d'experts immobiliers qui te clac-clac, qui t'évaluent.
Voilà, des experts immobiliers spécialisés dans l'agricole.
Ouais, bah c'est... Tu vois, je ne connaissais pas ce métier. Tu m'as encore appris quelque chose, Carole. Merci beaucoup. Tu nous as encore appris quelque chose dans cette émission. On s'intéresse donc toujours aujourd'hui et cette semaine, puisqu'on se retrouve chaque semaine avec toi, Carole, de l'ADR de l'Aveyron, pour faire un état des lieux de l'outil à transmettre et les modalités. On n'a pas fini, hein, on n'a pas fini dans cette dans le cadre même de l'estimation, ou si on a fini pour l'estimation.
Non, on n'a pas fini, parce que là, on vient de voir la location.
Et voilà,
donc on a vu, location, il y a des barèmes préfectoraux, il y a des petites grilles à remplir, on le fait sous sol ou on le fait faire si on trouve que c'est trop fastidieux.
Voilà. Mais il y a aussi la vente, on y revient.
Mais il y a aussi la vente,
oui,
il faut aussi faire une estimation.
C'est plus compliqué ou c'est moins compliqué ?
Je dirais que c'est plus compliqué.
Ouais, on le voit. Ok, alors vas-y.
Alors, il y a trois méthodes.
Oui.
La plus connue, c'est ce qu'on appelle la valeur patrimoniale. On évalue chaque bien selon la valeur vénale estimée.
Ok, donc là, c'est un expert ou quelqu'un qui sait...
Alors, on peut se faire aider, voilà. Pour du matériel agricole, on demande à son concessionnaire.
Ouais, le tracteur, tac, il a tant de kilomètres, telle année, tel modèle.
Pour les animaux, on demande aux personnes avec qui on a l'habitude de
travailler,
de vendre les animaux.
Plus ou moins le prix de leur bête, j'imagine,
voilà.
Grosso modo.
En principe, ouais, ça c'est assez facile.
Ouais, ok.
Pour le bâtiment et le foncier, c'est là où c'est un peu plus compliqué.
C'est là où peut-être des fois on se fait des illusions.
Alors, on peut le faire soi-même, toujours, il n'y a pas d'obligation.
D'accord.
Hein. Et on peut aussi se faire aider par des experts. Alors, l'avantage de l'expertise, c'est que ça donne une idée objective du bien.
Ah ouais, c'est pas le côté sentimental.
C'est ça.
On a toujours tendance à surestimer ce qu'on aime.
Oui, oui, tout à fait. Et d'autant plus dans ces domaines-là où c'est la grange qui passe de génération en génération, depuis 10 générations.
La poutre, elle est pourrie, mais je l'aime.
C'est ça.
Mais elle est pourrie.
Okay. Et l'expert, lui, il va dire, la poutre est pourrie.
Elle est vraiment pourrie. Oui. Et oui. Non, mais on comprend bien, c'est important tout ça. Toujours
alors,
dans l'idée de mettre les choses au clair.
Toujours. Donc l'expertise, ça donne une idée objective, sachant que c'est une base. Vous n'êtes pas obligé de respecter l'expertise.
Ah bah moi, on me dit que ma bagnole elle vaut 5 000, je veux la vendre 50 000, c'est mon problème.
Voilà, il n'y aura pas beaucoup d'acheteurs,
c'est ça le souci.
Tu peux essayer.
Bah voilà.
Et si elle vaut 5 000, tu peux aussi décider de la vendre à 4 500.
Voilà, mais là, c'est moins mon genre. Bon, enfin, des fois, il faut savoir lâcher le morceau. Carole.
En tout cas, c'est vrai que si on a un repreneur et qu'on a une expertise et que si on trouve soi-même que l'expertise nous correspond et on dit « Ok, je vends la valeur de l'expertise », bah, c'est un gage de sérieux face au repreneur.
Ouais, et puis c'est aussi peut-être un gage que ça se vendra mieux.
Oui, tout à fait.
Forcément.
Parce que l'expertise, elle est faite en fonction du prix du marché.
Voilà, puis elle est censée être neutre.
C'est ça. Ouais.
Et eux, ils ont des comparaisons, ils connaissent leur territoire, même si tout ça, on peut jouer un peu à la marge, mais bon, on n'est souvent pas loin du compte. Ok, on poursuit. On continue de parler d'argent.
Oui, toujours on parle d'argent. Alors, il y a trois façons d'estimer.
Ouais.
Donc, il y a la valeur patrimoniale qui est la plus connue.
Ouais.
Il y en a deux autres dont on parle assez peu.
Oui.
C'est la valeur de reprenabilité ou valeur de remboursement. Donc, elle dépend de la capacité à rembourser un emprunt. Donc, ça va dépendre du revenu qui est dégagé par l'entreprise.
Eh ouais.
Plus elle dégage de revenus, plus
elle
a de valeur.
Plus elle vaut cher, oui.
Voilà. Parce qu'effectivement, on parlait tout à l'heure...
La même poutre pourrie.
C'est ça.
Eh oui.
C'est ça.
Selon
c'est-à-dire
ce qui est
si
produit,
ma ferme,
ce qui est vendu,
je l'aime beaucoup, mais qu'elle ne me rapporte rien,
ouais,
et qu'elle ne rapporte rien au futur repreneur, ouais, elle n'aura pas beaucoup
c'est
de valeur.
Pas bon. Mais à l'inverse, la poutre est pourrie, mais la ferme produit des choses qui se vendent bien et un peu cher. Et bien là, la poutre, elle est un peu moins pourrie, même si elle reste pourrie.
Oui. Si on veut faire le parallèle avec ce qu'on a dit tout à l'heure, si par exemple c'est une toute petite structure, mais je fais des bons produits et j'ai un super
bon
réseau
chiffre,
parce que j'ai des clients, j'ai créé une marque.
Ouais, ça vaut plus cher que la même chose
qui
marche
chose
moins bien.
C'est ça.
Ok. Autre type d'évaluation. Ouais.
Et puis la valeur de rentabilité, elle est calculée sur la rentabilité de la ferme, sa capacité à rémunérer le capital. C'est si j'ai de l'argent et que soit j'investis dans une ferme, soit j'investis ailleurs. J'essaie de voir le pourcentage de rentabilité.
Le but, c'est de gagner de l'argent. Donc, de quel prix il faut que ce soit pour que je gagne de l'argent.
C'est ça.
Ok. Là, pareil, c'est pour ces différentes valeurs, c'est notamment celle de la rentabilité. Moi, je ne suis pas volontaire pour le faire. Je ne saurais pas le faire. Il faut être expert, là, quand même.
Non, faut pas forcément être expert, mais bon, là, on peut se faire aider aussi. Dans les faits, donc, ce qui peut être sympa, c'est en fait de se faire accompagner et puis de calculer les trois valeurs et de faire la moyenne des trois.
D'accord. Et mais Carole, quand tu dis se faire accompagner, ça me rappelle, ça me fait penser à toi. T'es accompagnatrice aux transmissions à l'ADR de l'Aveyron. Ouais. Donc là, toi, on peut t'appeler pour toutes ces choses-là.
Oui. Ah. Quand je fais un accompagnement de transmission, c'est ce que je fais. Voilà.
T'es forte, hein. Si, t'es super forte. t'es très forte. Bon, Carole, comment on fait pour te contacter?
Alors, on peut me contacter au 07 69 25 13 96.
Ok, les coordonnées, j'imagine qu'on peut les retrouver
sur le site de
l'ADR. ADR.
C'est ça.
Et 12 pour l'Aveyron, sinon c'est pas Carole, c'est quelqu'un d'autre. Qui est très bien aussi, hein.
Parfait, voilà. on est toutes bien.
Voilà, évidemment. En revanche, pour ce qui est l'expertise comptable, faut pas pousser.
Non, moi, je ne fais pas d'expertise. Je peux vous aiguiller vers des personnes qui font de l'expertise. Ouais, ouais. On peut, à la rigueur, regarder la valeur de reprenabilité, la valeur de rentabilité, mais je ne me substitue pas aux experts fonciers.
Ok. Est-ce qu'on a oublié un point particulier au sujet de cette nouvelle leçon aujourd'hui autour de la transmission d'une exploitation agricole et en Aveyron en particulier?
Donc, par rapport à ces estimations, dans les faits, le vendeur calcule une valeur patrimoniale et l'acheteur, lui, il va calculer combien la ferme va lui rapporter pour pouvoir vivre et rembourser ses emprunts. D'accord. Donc ça revient un peu à ce qu'on appelait la valeur de reprenabilité. Et le vrai prix, ce sera le mix des deux, le fruit de la négociation.
Tout à fait. Il peut y avoir de grands écarts parfois, d'autres fois beaucoup moins, mais le prix final, c'est un peu c'est la négo, on va dire. Très bien. Un dernier point autour de cette nouvelle leçon aujourd'hui avec toi, Carole.
Donc, on est toujours dans l'argent.
Ah bah c'est bien, moi je t'ai...
On ne quitte pas.
J'en ai pas, mais ça m'intéresse. Ouais.
Donc, il faut calculer les incidences fiscales.
Ah bah oui, j'imagine.
Vendre une ferme ou faire une cessation, ça veut dire qu'il y a du matériel à vendre, du cheptel, des stocks... peut-être du foncier, peut-être des bâtiments.
Ouais, ça ne va pas
bien
se passer
sûr,
comme ça.
Ça fait un gros paquet, ça.
Ça peut faire un beau paquet.
Donc, il faut calculer les incidences fiscales. Et il y a plusieurs manières de faire.
Ce que tu appelles incidence fiscale, c'est ce que j'appelle les impôts.
C'est les impôts,
on est d'accord.
Oui.
Voilà, donc oui, tu sais que tu vas pas tout prendre dans la poche. Tu vas devoir en rendre un peu.
Voilà, oui.
Mais c'est pour la France, Carole.
Donc, c'est pour la France.
C'est pour la République française. Mais quoi, mais si.
Oui, c'est pour les écoles et les routes.
Donc c'est super.
Mais il faut l'anticiper.
Mais il faut, voilà.
Pour pouvoir le donner ou pour voir s'il y a des moyens d'en donner un petit peu moins.
Oh non, tu fais pas ça. Tu vas pas mettre sur des comptes au Mexique ou je ne sais quoi.
Non. Tout est réglo.
Voilà,
tout est réglo.
On respecte les règles.
Oui.
Mais on donne pas trop.
Toujours.
Hein, on n'arrondit pas au-dessus. Au moment de faire le chèque aux impôts.
On donne ce qu'on peut.
Ouais, on donne ce qu'on nous demande. De toute façon, les impôts, t'as pas le choix. Hein, je veux dire. Allez, bon. Ok, c'est bien noté. Merci beaucoup, Carole, pour ce nouvel épisode autour de la transmission agricole en 10 leçons avec l'ADR de l'Aveyron. Réussir la transmission agricole en 10 leçons, c'est le thème et le titre de notre série. Les épisodes précédents sont d'ailleurs retrouvés en podcast, notamment sur le site cfmradio.fr. On va se retrouver pour un nouvel épisode la semaine prochaine.
Oui.
C'est toi bien, c'est toi qui bois. Tu peux me dire, finalement, ça sera en 9, le son. Mais non, on reste sur 10.
Non, on reste sur 10.
Donc, on est bien. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Carole, tu sais de quoi tu vas nous parler?
Trouver un repreneur.
Oh là, ça oui, alors ça, effectivement, ça peut être un souci. Ou pas.
Ou pas.
On verra ça la semaine prochaine avec toi. Merci, Carole.